Le journal de Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence avec des banderoles.
Brandies dans des dizaines de défilés partout en France contre la gestion sanitaire du gouvernement à l'école. Profs, directeurs, inspecteurs, personnel administratif, parents réunis dans la rue. Une mobilisation historique selon les syndicats qui ont obtenu fait rare d'être reçus dès ce soir par le Premier ministre en personne. Nous serons dans le cortège parisien en début de journal. À Grenoble, dans un défilé auquel participait le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, et devant la rue de Grenelle à Paris avec un syndicaliste qui demande au gouvernement de changer de méthode. À suivre aussi la stupéfaction des proches de Fariba Adelra, cette chercheuse condamnée en Iran à 5 ans de prison et qui vient de retourner derrière les barreaux. Étrange audience aujourd'hui avec un accusé mutique au procès des attentats du 13 novembre. Et pour finir, une exposition pleine de surprises sur l'histoire de la céramique à travers les âges.
À 18h15, un jour dans le monde avec les femmes du Mossad. Ce soir, les services secrets israéliens se targuent d'être l'organisation la plus féminisée d'Israël. L'histoire de ces femmes à travers 20 portraits, les grandes affaires d'espionnage du XXe siècle, tout cela est dans un livre que nous vous ferons découvrir avec le grand invité du 18-20. Et à 19h20, c'est le téléphone sonne, on vide les entrepôts. Ce soir, après la loi sur l'interdiction de jeter des produits alimentaires, depuis le 1er janvier, les invendus non alimentaires ne doivent pas être détruits non plus. On parle de vêtements, de choses, de produits d'hygiène, de produits électriques, de cartouches d'encre et mille autres choses. Qui rechigne? Quelles sont les entreprises vertueuses? Pourquoi c'est compliqué à mettre en place? C'est aussi notre affaire à tous. Et c'est le téléphone sonne au 01 45 24 7000.
France Inter.
Et on commence donc, Sébastien, avec le ras-le-bol du monde enseignant.
Et ces dizaines de manifestations sur tout le territoire, à l'appel des syndicats, des cortèges de plusieurs milliers de personnes à l'échelle nationale, c'est dans la capitale que la mobilisation était la plus massive, plusieurs milliers de personnes. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Et parmi elles, dans le cortège, des enseignants, des directeurs d'établissements épuisés par l'empilage des protocoles sanitaires.
Oui, épuisé, c'est vraiment le mot qui est revenu dans tous les témoignages des manifestants sur le terrain. Ils disent combien la situation est difficile à gérer. Sandrine est professeure dans une école maternelle du Val-de-Marne. Elle ne se sent pas suffisamment protégée.
On estime qu'on n'est plus en sécurité dans notre lieu de travail, ni nous, ni nos élèves, ni nos collègues en fait, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, mais il y a tous les autres personnels qui travaillent avec nous et qui sont affectés également. Donc on a déjà deux ATSEM en arrêt de travail parce qu'elles ont repris le travail, elles ont été contaminées depuis la reprise, quoi.
C'est un profond malaise qui s'exprime aujourd'hui et qui est général. Dans le cortège, on a vu des chefs d'établissement, des principaux de collège, des proviseurs de lycée qui n'ont pas l'habitude de manifester. Et quand Kamel, directeur d'une école en banlieue parisienne, parle de son quotidien, il fond en larmes.
Et puis, vous voyez, on pleure. On pleure parce qu'on n'en peut plus. On arrive à un point où ça devient très très difficile au quotidien. J'adore mes élèves, j'adore mes enseignants, mais malheureusement, ça devient difficile. On charge la mule, et à un moment, la mule ne peut plus supporter un tel fardeau. Monsieur le ministre, que je respecte énormément, faudrait qu'il fasse un petit effort de se dire que sur le terrain, les gens souffrent, mais souffrent vraiment.
Les personnels de l'éducation nationale disent tous qu'ils ont le sentiment de ne pas être écoutés et de ne pas être soutenus.
L'émotion du monde enseignant avec Sonia Princey en direct et Marc Garvenès. À noter dans la manifestation parisienne plusieurs candidats de gauche à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon qui qualifie Jean-Michel Blanquer d'idiot utile, Anne Hidalgo, Fabien Roussel ou encore Christiane Taubira également présents. Et puis Yannick Jadot lui avait choisi de se rendre à Grenoble en compagnie du maire vert écologiste Éric Piolle. On écoute le candidat écologiste à la présidentielle.
Ce gouvernement, malheureusement, comme les précédents, ont souvent sacrifié l'école. Là, aujourd'hui, incontestablement, il faut un rattrapage des salaires. C'est évidemment la question des effectifs, c'est la question des programmes, mais c'est surtout pour soutenir des enseignants, une communauté éducative qui s'engage depuis 2 ans à essayer d'enseigner dans des conditions très difficiles de Covid. Et qui est face à un ministre qui improvise, un ministre qui les méprise, qui méprise les parents d'élèves, qui méprise les élèves. Et ça n'est plus supportable. Donc on est là pour soutenir toute la communauté éducative face à un ministre, face à des instructions gouvernementales qui les déstabilisent, qui rajoute de l'angoisse à l'angoisse. Et le mépris du ministre Blanquer est inacceptable. C'est pourquoi je demande sa démission.
Yannick Jadot avec Gérard Fourgeau de France Bleu Isère. Autre défilé important entre 3 et 5 000 personnes rassemblées à Bordeaux, 4 000 dans les rues de Toulouse, 3 000 à Nantes, 2 000 à Marseille, entre 2 000 et 4 500 à Rennes, près de 2 000 personnes à Caen et à Rouen. Au-delà des défilés, les chiffres montrent également une forte mobilisation dans les établissements avec, comme d'habitude, une différence du simple au double entre les syndicats d'enseignants et le ministère de l'éducation. 75% de grévistes dans le premier degré selon le SNUIPP, 39% selon la rue de Grenelle, 62% de grévistes dans les collèges et lycées selon le SNES, 23% selon le ministère. Mais quels que soient les chiffres, on l'entend, la colère, elle, est profonde au point que le Premier ministre a accepté de recevoir les syndicats sans attendre. Dès aujourd'hui, ce sont eux qui en ont fait la demande. Réunion d'ici une demi-heure au ministère de l'Éducation nationale en présence du ministre Jean-Michel Blanquer. Olivier Véran, lui, sera présent en visioconférence. Le ministre de la Santé diagnostiqué positif au Covid aujourd'hui. Alors que s'apprêtent à dire les organisations syndicales à Jean Castex? Élément de réponse avec Benoît Test de la FSU.
C'est Jean Castex qui a fait les dernières annonces, qui ne nous satisfont pas, qui sont très en deçà de nos attentes, puisque il a annoncé une simplification du protocole pour les parents, une simplification sur les tests, qui pose question d'ailleurs, mais absolument pas une sécurisation supplémentaire. Il y a aussi une méthode à changer. C'est tout ça qu'on veut aller dire au Premier ministre, qui apparemment a pris le dossier en main, mais qui l'a pas pris non plus de meilleure manière que Blanquer. Hein. On ne s'en sortira pas si on ne change pas de méthode et si on ne change pas de braquet. Qu'on arrête d'annoncer qu'on va envoyer des capteurs de CO2, mais qu'on les reçoive, ces capteurs de CO2. Qu'on arrête d'annoncer qu'on va recevoir des masques, mais qu'on les reçoive véritablement. Et ça fait 20 mois qu'à coup d'annonces médiatiques, on prétend régler les problèmes. Et nous, sur le terrain, on constate que ça n'est pas réglé, que ça ne va pas et qu'on n'y arrive pas, tout simplement.
Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Autre sujet sensible pour la majorité en ce moment, le pass vaccinal. Voté hier par les sénateurs, mais modifié sur plusieurs points importants. Le pass version Sénat disparaîtrait automatiquement sous les 10 000 hospitalisations, serait seulement obligatoire pour les majeurs et sans contrôle d'identité pour les patrons de restaurants. Le texte est depuis cet après-midi aux mains de la commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs pour tenter de trouver un compromis. Un texte qui continue de provoquer la haine chez certains. La secrétaire d'État à la biodiversité Bérangère Abba et son suppléant, le député de la Haute-Marne, Sylvain Templier, vont déposer plainte après avoir reçu une lettre de menace de mort.
Le retour derrière les barreaux de Fariba Adelka.
Adelka inquiète, pardon. Effectivement.
Qui inquiète
ses soutiens, effectivement. Cette chercheuse franco-iranienne, arrêtée il y a plus de 2 ans en Iran pour atteinte à la sécurité nationale, était depuis plus d'un an en résidence surveillée, mais le régime de Téhéran a décidé hier de l'incarcérer de nouveau. Un revirement inexpliqué, les autorités n'ont donné aucune justification. C'est juste que l'Iran est actuellement au cœur d'une négociation internationale tendue sur son programme nucléaire. Les soutiens de Fariba Adelka manifestaient aujourd'hui à Paris. Écoutez Jean-François Bayard, ancien directeur du CERI, le centre pour lequel la chercheuse travaillait.
Nous ne savons pas exactement dans quelle section de la prison elle est, si elle est, si je puis dire, rayon gardien de la révolution, ce qui signifierait qu'elle est au secret et vraisemblablement soumise à des interrogatoires, ou si elle est dans le quartier général, ordinaire de la prison d'Evin, qui est soumis quand même à des règles strictes, mais plus ou moins administratives en matière de conditions de détention. Mais il faut bien dire que nous n'avons aucune explication, et à quelque niveau que ce soit au niveau du gouvernement français ou à notre propre niveau, sur ce qui est un retournement qui plonge tout un chacun dans la stupeur et bien entendu dans l'indignation. Rien ne laissait prévoir cette nouvelle incarcération. Rien, bien entendu, ne la justifie, et d'ailleurs rien ne justifie la condamnation à 5 ans de prison de Fariba Adelka, puisqu'elle n'a jamais fait que son métier, celui d'anthropologue. Alors évidemment, si être anthropologue, c'est être coupable en Iran, elle est coupable, ça c'est clair.
Jean-François Bayard avec Nathanaël Charbonnier, une réincarcération de Fariba Adelara, jugée totalement arbitraire ce soir par Emmanuel Macron. C'est la première condamnation pour crime contre l'humanité d'un haut gradé du régime de Bachar el-Assad, un ancien colonel des services de renseignement syriens, qui écope de la prison à vie pour le meurtre de 27 prisonniers et la torture de moins 4000 autres. Un verdict historique rendu aujourd'hui par la Haute Cour de Koblenz en Allemagne. Lui était l'un des cadres importants de l'État islamique, Osama Krayem, l'un des accusés au procès des attentats du 13 novembre. C'était aujourd'hui son interrogatoire. Osama Krayem, membre des commandos de Bruxelles, bientôt jugé en Suède pour l'assassinat d'un pilote jordanien brûlé vif dans une cage. Depuis près de 2 mois, l'accusé refusait de se présenter dans le box. Il a fini par venir. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Il est venu, mais pour se taire.
Et il s'en est expliqué dans une lettre au président. Je souhaitais m'exprimer, mais ce procès n'est qu'une illusion. Personne ne cherche la vérité. J'ai perdu espoir. Osama Krayem n'en dira pas plus. J'avais envie de vous demander votre évolution dans votre pratique religieuse, lance le président. Dans le box, l'accusé, cheveux longs, barbe fournie, survêtements noirs, reste assis, impassible. Vous êtes parti en Syrie avec environ 30 000 dollars. On avait envie de vous demander d'où venait cet argent. Silence. On aurait bien aimé savoir si on vous avait confié une mission particulière pour l'État islamique. Silence, pas d'explication, pas de famille non plus pour venir témoigner à la barre. Le frère et la sœur de l'accusé n'ont pas retiré leur convocation, indique ainsi le président. Le seul à avoir fait le déplacement est un professeur de maths à la retraite qui, 4 ans, 175 séances et 260 heures durant, a enseigné le français à l'accusé en prison. Un homme au tempérament constant, décrit-il, avec lequel il a travaillé sur Tintin ou Le Petit Prince. Un homme au sujet duquel un surveillant de prison lui aurait dit « abstraction faite des choses terribles qu'il a commises ». Monsieur Krayem est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité. Sur les bancs, des parties civiles s'exclament. À la barre, le témoin ajoute « et j'y souscris pleinement ».
Charlotte Piret en direct du Palais de Justice de Paris avec Geoffrey Marianne. Dans l'affaire de la tuerie de Chevaline, le mystère reste entier. La garde à vue du motard qui avait commencé hier a été levée ce soir. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Ce motard avait été déjà entendu en février 2015 en qualité de témoin car il avait été croisé par 2 gardes forestiers le 5 septembre 2012, non loin du lieu du quadruple meurtre. Le RSA ne bénéficie pas suffisamment à ceux qui devraient le toucher. Conclusion de la Cour des comptes qui rendait aujourd'hui un rapport sur cette allocation. 30% des personnes à qui il est destiné n'y ont pas recours. Trop compliqué pour le demander. Les magistrats proposent de simplifier l'accès et les versements. On y revient en détail dans le journal de 19h d'Hélène Philly.
Et puis on termine, Sébastien, avec le retour d'un art longtemps jugé ringard, la céramique.
La céramique au top de la tendance, Fabienne. Écologique, durable, cet artisanat est aussi un art donc qui fascine les artistes et le public. La preuve de ce nouvel engouement avec l'exposition Flamme, l'âge de la céramique au musée d'art moderne de Paris qui présente d'incroyables créations, 350 pièces du néolithique au 21e siècle. Visite avec Isabelle Pasquier.
À l'entrée de l'exposition, une avalanche d'assiettes cassées, histoire de briser les préjugés sur la céramique. Gauguin, Picasso, Duchamp, Cindy Sherman, Dali, Nikita Saint-Phal ou Barcello, tous ont succombé à l'alchimie de la céramique entre terre, eau et feu. Loin du virtuel, avec la céramique, les artistes contemporains retrouvent la matière, le geste et l'imprévisible pour représenter le monde. La céramique peut être subversive et féministe, comme les œuvres de Simone Fatal et Elsa Saal. Andresen est la commissaire de l'exposition.
La céramique a été longtemps dénigrée, associée au domaine du domestique, de l'amateur. Donc certaines artistes ont pris le contrepoint de cela et se sont réappropriés en fait ce médium pour en faire un vecteur d'opposition subversive, politique et effectivement féministe.
Incroyable les canettes de soda en céramique de l'artiste japonaise Kimio Mishima pour dénoncer la surconsommation. La tendance de la céramique contemporaine, c'est le sloopy, une esthétique du difforme loin du numérique. Enfin, très spirituelle, les créations de Jean Girel. À l'intérieur d'un bol, il condense une vision de l'univers et même les sentiments du ciel.
La flamme, l'âge de la céramique, c'est jusqu'au 6 février au Musée d'Art Moderne de Paris. Et puis un dernier mot de sport avec une entrée en matière musclée pour les handballeurs français au championnat d'Europe. Premier match des costauds ce soir contre la Croatie, vice-championne d'Europe. Coup d'envoi à 20h30 en Hongrie.
Sébastien Logédy, merci beaucoup. Sébastien, tout de suite dans Un jour dans le monde, ce soir vous nous emmenez notamment en Laponie où la bataille se joue entre les rennes et les éoliennes.
Exactement.
Je vous emmène, moi, dans les secrets du Mossad, avec les femmes qui ont fait la légende des services secrets israéliens. Ce sera avec le premier invité. Et puis, à 19h20, c'est le téléphone sonne. Je vous le remets en tête. Ce soir, on déstocke, on donne, on répare, on recycle, mais on ne jette plus. Les magasins, depuis le 1er janvier, n'ont plus le droit de se débarrasser n'importe où de leurs invendus. Les produits non alimentaires sont à la même enseigne que les produits alimentaires. On verra ensemble où sont les filières pour vider les entrepôts sans jeter, quels progrès sont à faire, quelles sont les enseignes qui joue le jeu, ce que vous en pensez aussi au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel de demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Avec vous, Élodie Calac. Bonsoir, Élodie. De nombreuses gelées demain matin.
Mais oui, ça sera bien frisqué. On peut choisir des chaussettes en laine pour demain matin. Moins 6 degrés attendus en Verrieux, moins 5 à Clermont-Ferrand, à Montauban, moins 3 à Nancy, Grenoble, Bordeaux ou Montpellier, 0 degrés à Brest, à Paris, à Toulon. On trouvera quelques températures positives en allant vers la Manche, vers la Côte d'Azur ou la Corse, avec 3 degrés à Cherbourg, à Bastia et 4 à Nice. Et puis l'après-midi, il fera 5 à 8 degrés sur le nord jusqu'à la région Rhône-Alpes, 9 à 13 sur le sud-ouest et 11 à 15 en Méditerranée.
Et côté ciel, ça commence par de la grisaille, ça finit avec du soleil.
Oui, le soleil s'imposera largement après dissipation des nuages bas et des brouillards. Alors ils seront parfois givrants sur le sud-ouest, sur les régions de l'est, et puis du nord-ouest vers la frontière belge. Là, ils seront vraiment nombreux, ils tarderont parfois à se morceler. Mais c'est bien le soleil qui reprendra progressivement l'avantage en l'après-midi.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France. À tout à l'heure, Élodie, après 19h.